Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Oh, nous débutons par le journal évidemment et ce communiqué qui est tombé hier soir. Gros chambardement à l'Olympique de Marseille. Exit Jacques-Henri Hérault, le nouveau président de l'OM, s'appelle désormais Pablo Longoria. Jorge Sampaoli, lui, est officiellement nommé entraîneur. Une page se tourne et c'est bien ce qu'attendaient les supporters. Écoutez la réaction d'Alexandre.
On ne pouvait plus le voir, quoi. Il avait plus sa place ici et c'est bien pour tout le monde, on est soulagé. Il faut comprendre que nous, on est des passionnés, que la plupart de notre vie, c'est des personnes, c'est l'OM. Ici, c'est la démesure. Du jour au lendemain, je ne peux plus aller au stade, ça fait un an. J'ai des problèmes de santé aujourd'hui et que je suis persuadé que ça met du temps à guérir parce que s'il y avait l'OM, voilà, je ne serais pas là, quoi. C'est un vecteur social pour nous, c'est très important pour le peuple marseillais. Nous, on est des passionnés et chaque Henri Hérault, il n'a pas compris où il était. C'est pas un club comme les autres, c'est pas une vie comme les autres. C'est ce qui fait un peu le charme de ce club. C'est pour ça qu'on aime tant.
Alexandre, le passionné avec Samia Belbachir. Alexandre qui pourrait bien déchanter. Comment vous dire ? Le nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, a une sacrée réputation en Argentine. Il n'est pas prophète en son pays, Jorge Quirino.
En Argentine, dans les émissions de football, lorsque le nom Sampaoli est évoqué, en général, ça donne ça.
Un désastre. Sampaoli a été la pire erreur de l'histoire de la sélection.
Rancœur trois ans après la débâcle argentine au Mondial, élimination en huitième de finale par la France. Pour la plupart ici, l'ancien sélectionneur est coupable. Mauvaise gestion de Messi, un vestiaire qui s'est rebellé contre lui. Son idée de jeu, jamais vue, avec des formations différentes à chaque match. Alors, dans les rues de Buenos Aires, le choix Sampaoli pour l'OM pose question.
Ça me surprend énormément. Je ne l'imaginais pas avec un futur après le dernier Mondial.
Je pense qu'il y a de meilleurs entraîneurs sur le marché que Sampaoli. Paoli pour Marseille, non ? Pour moi, il ne va pas durer longtemps. Bonne chance.
Mis à part ses proches et ce groupe qui avait composé cette musique, Sampa Rock, pour le soutenir, l'entraîneur sans expérience dans un club argentin n'a pas beaucoup d'alliés ici, le journaliste Yann Tandé.
Il a déçu ceux qui n'étaient pas fans de lui, mais aussi ses supporters. Si tu as Messi et que tu joues mal, tu le paies double. C'est un bon entraîneur, mais en Argentine, il ne l'a pas démontré.
L'expérience marseillaise sera observée en Argentine. Face aux critiques, le technicien est toujours resté fidèle aux paroles d'un titre tatoué sur sa peau. Je n'écoute pas. Et j'avance.
Jorge Quirino en Argentine pour RTL. Alors autant dire que demain au Vélodrome, la rencontre face à Lyon sera passée au crible. Aujourd'hui, deux matchs au programme de la 27e journée de Ligue 1. Bordeaux-Metz à 13h et Dijon-PSG à 17h. Sachez que Rennes a enchaîné hier soir une troisième défaite consécutive en championnat. Les Bretons ont perdu à domicile contre Nice 2-1. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est encore la mort d'un adolescent. Et cette fois-ci, cela s'est passé à Bondy, en Seine-Saint-Denis. La victime, un jeune de 15 ans, a été tuée par balle, Anne Le Hénaff.
Oui, les faits se sont produits dans les locaux d'une maison de quartier, l'espace Nelson Mandela, un lieu pour les jeunes, ouvert tous les jours en cette période de vacances scolaires. Il était donc 17h hier après-midi lorsque l'adolescent a été tué par balle par deux personnes qui ont ensuite pris la fuite sur un scooter. Elles sont recherchées, n'ont pas été retrouvées pour le moment. Personne n'a été interpellé. L'enquête qui démarre tout juste a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis qui va donc tenter d'éclaircir les raisons de ce meurtre, s'il est lié par exemple à un règlement de compte entre bandes, à une rivalité. Le parquet de Bobigny ne donne pour le moment aucune précision, aucun détail sur ce qui s'est passé.
Anne Le Hénaff pour RTL. Premier week-end de confinement pour les Alpes-Maritimes et l'agglomération de Dunkerque. Depuis hier, 18h, les déplacements non justifiés sont strictement interdits. À Nice, beaucoup d'habitants sont partis se réfugier dans l'arrière-pays, alors que de nombreux touristes, eux, ont écourté leurs vacances, même si certains ont décidé de profiter de la ville autrement, Hugo Hamelin.
Oui, forcément, Nice n'aura pas la même saveur vue de la chambre d'hôtel, mais Sabine et Arnaud, originaires de Franche-Comté, ont préféré rester jusqu'au bout avec quelques astuces.
L'hôtel est sympa, il y a une terrasse, donc on va profiter quand même de notre terrasse d'hôtel, on va profiter du soleil malgré tout, et puis on ira, on a les plages à proximité, on a une heure. Donc on fera une heure sur la plage et une heure pour les courses, voilà.
Un couple de touristes qui vient de passer une semaine ici et qui n'est pas vraiment surpris de voir le nombre de contaminations exploser dans le département des Alpes-Maritimes.
Le problème qui se passe, c'est que moi j'étais quand même étonné de voir des Anglais, des Italiens, mais en puissance hein, quand même. Hein. des Russes. Il y a trop de personnes, il y a trop de gens. C'est vraiment le brassage hyper-population, quoi. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des problèmes de virus, hein. Ça peut que se passer comme ça, malgré que les gens font attention quand même, la plupart.
Le maire Christian Estrosi l'avait d'ailleurs dénoncé il y a une semaine. L'aéroport de Nice est passé, après Noël, de 20 à 120 vols par jour.
Le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL. Et pour aider ce reconfinement, le maire de Nice a décidé d'interdire l'accès aux plages durant les deux week-ends, histoire que les gens ne se regroupent pas massivement pendant l'heure qui est accordée pour prendre l'air. D'autres départements pourraient connaître les mêmes mesures si la situation ne s'améliore pas. Le Premier ministre Jean Castex doit s'entretenir ce matin avec une vingtaine de préfets. Le télétravail, vous le savez, fait partie de l'arsenal déployé pour lutter contre l'épidémie. Et comme promis, les entreprises qui ne respectent pas les règles sont pointées du doigt. Depuis le mois d'octobre, Anaïs Bouissou, il y a eu 52 mises en demeure avec des noms très connus.
Oui, le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne et la Massif, trois groupes qui n'ont pas respecté les exigences du télétravail. Dans certaines agences, tout le monde ou presque continuait à venir, à se déplacer malgré les règles du travail à distance. L'inspection du travail a intensifié ses contrôles ces dernières semaines avec des conseils, des déplacements dans les locaux, des lettres d'observation et quand ça ne suffisait pas, des rappels à l'ordre. Effectivement, d'après le ministère du Travail, il y a eu 52 mises en demeure depuis le mois d'octobre. La ministre Elisabeth Borne a rappelé à tous les acteurs de la banque, de l'assurance et du conseil l'importance de ne rien lâcher, la nécessité du télétravail, même quand ce n'est pas très pratique. Le ministère du Travail va continuer à mettre la pression sur ce sujet avec des points hebdomadaires sur tout le territoire et le comptage régulier des mises en demeure de l'administration.
Anaïs Bouissou pour RTL. Le télétravail peut aider à juguler l'épidémie, mais le principal espoir réside dans le vaccin. Le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a demandé hier des mesures concrètes pour augmenter drastiquement la production de vaccins contre la Covid-19. Et puis sachez que quoi qu'il arrive, confinement ou pas, les libraires ont le droit de rester ouverts. Ils ont rejoint la liste des commerces essentiels, cette fois, dans un décret publié hier au Journal officiel. Pour les États-Unis, le prince héritier d'Arabie Saoudite a bien validé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi il y a 2 ans, mais il n'y aura aucune conséquence. On en parle dans un instant.
RTL Matin jusqu'à 9h15 avec Agnès Bonfillon.
RTL Matin
avec Agnès Bonfillon.
Il est 7h09 sur RTL. Le renseignement américain n'a aucun doute et cette fois c'est officiel. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a bien validé le meurtre de Jamal Khashoggi à l'automne 2020. Le journaliste n'était jamais ressorti du consulat d'Istanbul. Un commando d'agents l'attendait à l'intérieur pour l'assassiner. Les États-Unis sont donc très clairs, Lionel Gendron.
Dans une interview à la chaîne américaine CBS, à la question « Avez-vous commandité l'assassinat ?», le prince Ben Salman avait répondu non. Le renseignement américain dit le contraire. Selon un rapport gardé secret par Donald Trump, mais déclassifié par Joe Biden, le prince héritier a validé l'opération. Jamal Khashoggi, résident aux États-Unis, chroniqueur pour le Washington Post, était devenu très critique envers les dirigeants de son pays. Le 2 octobre 2018, il entre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il n'en ressortira pas vivant. Son corps, démembré sur place, n'a jamais été retrouvé. Une opération menée par des agents venus d'Arabie Saoudite. Les États-Unis bloquent des visas et des avoirs d'officiels saoudiens, mais pas de sanctions contre Mohamed Ben Salman. Joe Biden envoie un message, mais ne veut pas de rupture totale avec Riyad.
Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis. Joe Biden a appelé le prince héritier en personne avant que le rapport ne soit rendu public. Le président américain, qui par ailleurs effectue, sachez-le, son premier déplacement officiel aujourd'hui, il se rend au Texas après la vague de froid qui, la semaine dernière, a provoqué de très nombreuses coupures d'électricité et d'eau potable. Dans quel monde vit-on? Je vous pose la question, Céline. Incroyable histoire. Pour terminer ce journal, des cambrioleurs ont porté plainte contre leur victime. Oui, vous avez bien entendu. Deux jeunes tentaient à nouveau de rentrer chez un habitant de Narbonne et ce dernier les a mis en fuite en tirant un coup de pistolet d'alarme. Autant dire, Patrick Tégéraud, que le tribunal correctionnel a peu apprécié le paradoxe hier.
Oui, c'est un peu le monde à l'envers, car ces deux cambrioleurs mineurs en étaient à leur deuxième tentative. La veille, ils avaient même réussi à ouvrir la fenêtre de toit. Le propriétaire, que nous appellerons Robert, avait porté plainte, mais les gendarmes ne s'étaient pas déplacés. Coup de fil, mail à la mairie, personne ne bouge. Car Robert est inquiet, il est tireur sportif, et il a peur que ses armes soient convoitées par les cambrioleurs. Et le lendemain, même scénario, mais cette fois, Robert a un pistolet d'alarme, un pistolet qui ressemble à un vrai, mais qui ne fait que du bruit. Il tire vers le sol, les cambrioleurs s'enfuient et vont raconter à leurs parents qu'on leur a tiré dessus. Les parents portent plainte et cette fois, les gendarmes agissent en interpellant Robert. Un magistrat zélé le met en examen, mais le tribunal correctionnel de Narbonne l'a relaxé. Les deux adolescents étaient absents à l'audience. Ils avaient expliqué aux gendarmes qu'ils étaient montés sur le toit pour récupérer une roue de vélo. Surréaliste, comme le reste.
Patrick Tégéraud pour RTL, effectivement surréaliste. La cagnotte de l'Euromillion a été décrochée, sachez-le. 210 millions d'euros ont été remportés par un joueur qui a validé son ticket en Suisse. Alors je vous donne quand même les numéros, hein. Peut-être avez-vous franchi la frontière pour tenter votre chance. Si c'est le cas, vous avez peut-être coché le 6, le 12, le 22, le 29, le 33 et les deux étoiles chance, le 6 et le 11.
J'ai un numéro, c'est pas moi.
Je crois qu'un numéro, c'est même pas la peine d'aller vérifier.